Radio de la Paix, la grande interview.
Francis Cassis.
Madame, Monsieur, bonjour. Vous suivez le programme La Grande Interview qui reçoit Pascal Afinguessan, président du parti politique Le Front Populaire Ivoirien, en abrégé FPI, et par ailleurs ancien premier ministre ivoirien. Avec lui, nous aborderons divers sujets, dont le premier, le partenariat FPI-RHDP. Président Pascal Afinguessan, bonjour.
Bonjour.
Ce partenariat a-t-il été conclu entre le FPI et le RHDP en quelle année?
Précisément le 2 mai 2023.
Et voilà que subitement, récemment, vous l'avez dénoncé.
Évidemment, parce qu'un partenariat, on le signe par rapport à des objectifs précis et qui sont contenus dans le document que vous signez, à savoir que nous nous mettons ensemble pour faire ceci et cela. En ce qui concerne ce partenariat, les deux objectifs sont d'une part la réconciliation nationale. Nous sommes engagés à travailler à consolider la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie. Donc ça, je peux même considérer que c'est la colonne vertébrale du partenariat. Et puis, secondairement, mutualiser nos efforts dans le cadre des élections, de manière à ce que nous aidions le partenaire là où il aurait des difficultés à gagner et que, de l'autre côté, lui aussi nous aide à gagner certaines circonscriptions. Et donc, il y avait donc ces deux pieds, ces deux volets. Nous avions même au départ souhaité que ces deux pieds soient d'égale importance. Malheureusement, dès le départ, le partenaire avait émis quelques réticences et n'a accepté qu'on ne fasse des alliances électorales que là où c'est nécessaire, donc au niveau local. À l'heure du bilan, donc un an après, ce que nous pouvons noter en termes de bilan, c'est que, en ce qui concerne la réconciliation nationale, le partenaire, donc le parti au pouvoir, a, je dirais, tourné le dos à cette question de la réconciliation nationale, qu'il considère comme n'étant plus à l'ordre du jour. Pour cela, il a supprimé le ministère chargé de la réconciliation nationale en octobre 2013. Ils font des déclarations selon lesquelles cette question n'est plus à l'ordre du jour, qu'elle est dépassée. Nous avons souhaité, pour que nous en ayons le cœur net, que nous fassions un séminaire national de bilan sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale, démocratie. Ils ont refusé. Donc, lorsqu'on regarde tout cela, on se dit, mais à ce moment-là, à quoi sert le partenariat? Puisque le partenaire dit qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, il ne faut pas rester dans une affaire où il n'y a rien à faire.
Alors, mais avant de dénoncer publiquement, comme vous l'avez fait, ce partenariat sur le volet réconciliation, mais est-ce qu'en interne, les partenaires se sont vus, ils ont échangé là-dessus?
Mais bien sûr, puisque je vous dis que nous avons eu des entretiens où nous avons souhaité que nous fassions le bilan, ils n'ont pas accepté. Donc, pour nous, le partenariat n'avait plus de raison.
Mais ce partenariat même, d'aucuns l'avaient vu déjà comme contre nature, parce que vous êtes de la gauche socialiste, eux sont de la droite, si je ne m'abuse.
Oui, mais la nature du partenariat, c'est la réconciliation. Qui est contre la réconciliation? Parce que quand on dit que c'est contre nature, c'est que c'est votre totem. Donc, vous vous mettez dans quelque chose qui est votre totem. Nous, la réconciliation nationale n'est pas notre totem. Nous considérons que c'est utile et aucun parti politique sérieux ne peut dire que la réconciliation est un totem et que pour cela, il ne peut pas se mettre avec un autre parti politique pour consolider la réconciliation. Donc, ceux qui disent cela, c'est par inculture politique, parce qu'ils confondent tout. Si c'était des questions qui touchaient aux idéologies de chaque parti, une idéologie de droite ou de gauche, on peut comprendre. Mais en dehors des idéologies qui peuvent nous séparer, il y a des questions qui nous réunissent. Et les questions de paix, les questions de liberté, de démocratie, ce sont des questions qui sont communes à tous les partis. Tout le monde doit être capable de se mettre ensemble pour consolider cela.
Donc, pour vous, le FPI, il n'y a pas encore de réconciliation en Côte d'Ivoire.
Nous disons que ce n'est pas fini. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls à le dire. Et même eux-mêmes, les mandats qu'ils ont donnés, par exemple, à la CDVR, est-ce qu'aujourd'hui, si on parcourt ce mandat, est-ce qu'on peut dire que la CDVR avait terminé? La question de la vérité sur les crises qui sont passées. Pour le moment, personne ne sait exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi pendant ces crises. Or, la question de la vérité est une question fondamentale dans un processus de réconciliation nationale. La question des réparations aux victimes, est-ce que toutes les victimes ont été prises en compte? Ensuite, la question des réformes, pour que plus jamais ce qui s'est passé ne se reproduise. Une fois qu'on sait pourquoi on s'est battu, qu'est-ce qu'on fait pour que les problèmes qui étaient à l'origine là soient corrigés? On sait que les élections ont été à l'origine de la crise. Mais en 2020, on a vu qu'on s'est battu
on
encore.
On va y arriver.
Alors, donc, ça veut dire que la réconciliation nationale n'est pas terminée. Même s'il y a eu des apaisements, il y a eu des mesures, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune nécessité de poursuivre le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire.
Et vous avez aussi pointé la question électorale. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en partenariat pour que vous vous aidiez à gagner.
Mais ça, c'est secondaire. C'est-à-dire, ce qui touche aux intérêts partisans, aux intérêts du FPI, c'est une chose, mais ce n'est pas le plus important. Parce que ça, c'est l'affaire du FPI. Mais ce qui est, par contre, important pour la République, c'est que sur les élections, il y a un environnement, un cadre juridique et institutionnel
oui,
qui garantisse la paix.
Mais concernant les élections passées, mm-hmm. il y a quand même des cadres du FPI mm-hmm. qui ont été appelés à co-gérer les mairies avec le RHDP.
Bien sûr. Je ne dis pas que la participation aux élections locales a été nulle. La preuve, c'est que ma conseillère politique, c'est vrai qu'elle n'était pas sur une liste RHDP, mais elle a été élue adjointe au maire. Nous avons une quinzaine d'agents au maire. Mais un bilan, on le fait en comparant les acquis aux pertes. Et quand nous regardons les pertes au plan électoral, en 2018, le FPI avait un conseil régional, avait deux mairies, avait trois postes de députés. Aujourd'hui, le FPI a perdu les deux mairies au profit du RHDP, a perdu deux postes de députés au profit du RHDP, a perdu le conseil régional du Moronou à cause du RHDP. Est-ce qu'on fait ça à un partenaire? Nous savions que nous n'étions pas aussi forts que le RHDP. C'est pourquoi nous avons dit, allons-y ensemble, on vous aide là où vous êtes faible, mais vous nous aidez aussi à progresser. Maintenant, ce que nous regardons, nous avons reculé.
Donc, il reste dans un partenariat de cette nature. Vous pensez avoir été abusé?
Mais évidemment, nous pensons que nous avons eu affaire à un partenaire accapareur, boulimique, qui ne cède rien à personne, qui va même se présenter dans votre circonscription pour vous arracher ce que vous avez en main. Et je comprends pourquoi ils ont du mal à avoir des alliés.
Oui, mais ça, ce sont des jugements que vous portez. Mais je veux dire, il y a quand même certains de vos cadres aujourd'hui qui sont dans les mairies avec le RHDP.
Je dis, ce n'est pas un jugement, ce sont des faits. Le fait que le RHDP n'a pas pu rester avec Soro Guillaume, c'est un fait. Le fait que le RHDP a laissé partir le vice-président Kamalan Dinkan, c'est un fait. Le fait que le RHDP a perdu l'alliance avec le PDCRDA de feu le président Bidier, c'est un fait. Et aujourd'hui, ce fait-là vient concrétiser que c'est un parti, je dirais, pratiquement infréquentable.
Ok, mais là, monsieur le président du FPI, ce que vous dites vous engage parce que chacun pourra apporter ses arguments.
Bien sûr,
ok,
bien
on
sûr.
Va embrayer sur un autre point. Il s'agit de l'appel à l'union de l'opposition lancé par Laurent Gbagbo en juillet, en meeting à Obonoua. Alors, monsieur Pascal Afinguessan, avec ce qui s'est passé entre vous et le président Laurent Gbagbo, est-ce que vous vous attendiez à un tel appel de Laurent Gbagbo?
Oh, je ne m'attendais pas à ça, c'est vrai, compte tenu de la posture qu'il a adoptée quand il est revenu de la haie, mais je savais aussi que la question de la nécessité qu'il fasse une ouverture est une question qui était en débat dans l'opinion et même au sein de son parti, le PPACI.
Alors donc là-dessus, quand vous avez appris cet appel, quelle a été votre première émotion ou votre premier sentiment? Qu'est-ce qui vous a traversé?
Mais d'abord, je me suis félicité de cet appel parce que la politique ivoirienne a besoin d'apaisement. La politique ivoirienne a besoin que les acteurs politiques sortent des logiques de confrontation, de diabolisation, etc., etc. Or, la posture du président Laurent Gbagbo était un problème, surtout pour nous, FPI, puisque ça avait radicalisé nos rapports avec nos camarades du PPACI. Donc, en faisant cette ouverture, c'est un acte de décrispation que nous avons salué. D'autant qu'il nous a envoyé le président exécutif de son parti pour indiquer que nous étions concernés par cet appel. Ça veut dire que nous n'étions plus infréquentables et tout ce qu'on a dit de nous, que nous étions des traits, tout ça, on tournait la page. Pour nous, c'est fondamental, parce que ça veut dire que le PPACI n'est plus un adversaire pour nous.
Donc, relativement à cet appel, qu'est-ce que vous répondez, en toute franchise?
Mais d'abord, la première réponse, c'est ce que je viens de vous dire. Maintenant, nous ne connaissons pas le projet politique.
Mais vous avez dit que vous ont déjà démarché, ils ont envoyé quelqu'un.
Non, ils ont envoyé quelqu'un juste pour nous informer de cet appel, sans nous dire, et c'est la question que j'ai posée d'ailleurs à l'émissaire, quel est le contenu de l'appel. Eux-mêmes, ils ont dit que pour le moment, ils passent pour informer les uns et les autres, qu'ils vont s'asseoir par la suite pour réfléchir et puis pour définir un contenu.
Mais Il semble qu'au sein même du FPI, il y a certains militants, pour ne pas dire des cadres, qui sont contre le fait que le FPI, possiblement, réponde favorablement à l'appel de Laurent Gbagbo.
Oui, c'est vrai, mais ça, c'est leur droit. Dans un parti démocratique, on ne peut pas faire l'unanimité. Quand il y a une question en débat, il y en a qui vont être favorables, il y en a qui vont émettre des réserves. Certains, par ressentiment pour ce qui s'est passé, n'ont même plus envie d'entendre parler de Laurent Gbagbo ou même d'une possibilité de rapprochement avec Laurent Gbagbo. Certains sont dans cette posture. Mais moi, je considère que ce ne sont pas des postures politiques. Parce que si on devait regarder ces ressentiments, on ne se serait jamais mis avec le RHDP. On sait ce qui s'est passé. On sait ce que ce sont eux qui ont été à la base de la perte du pouvoir en 2011. Moi, j'ai fait 2 ans et demi de prison à cause du RHDP. Il y a des camarades qui ont fait des années d'exil. Ils ont envoyé Laurent Gbagbo en prison à la CPI. Mais malgré ça, au nom de la réconciliation nationale, de l'intérêt général, nous n'avons pas hésité à conclure un partenariat avec eux. Mais Gbagbo Laurent, même s'il nous a dialogisé, ça n'a rien à voir avec ce que le RADP nous a fait. Et donc moi, personnellement, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'homme politique qui veut faire avancer le pays, je ne peux pas mettre dans la même balance ce que Gbagbo m'a fait et ce que Ouattara m'a fait. S'il n'y a aucune commune mesure, si j'ai été capable d'aller avec Ouattara dans un partenariat pour la réconciliation nationale, je ne vois pas pourquoi je devrais rester sourd. Maintenant, tout dépend de ce qu'il propose. Est-ce que ce qu'il propose, ça va dans le sens de l'intérêt du FPI? L'intérêt du FPI aujourd'hui, c'est d'aller aux élections et de gagner l'élection de 2025. Si ce n'est pas ça, bon, on va se réserver. Mais si, effectivement, il y a des propositions qui nous paraissent intéressantes, où on voit bien qu'il y a l'intérêt de la nation, il y a l'intérêt du FPI, on pourra examiner...
Déjà, certains observateurs avertis ou analystes prédisent un échec de cet appel, c'est-à-dire l'union de l'opposition. Disant que chacun avec son ego ne pourra jamais accepter.
Mais ça n'engage qu'eux. Mais eux, ils ne sont que des observateurs. Nous sommes des acteurs. Et le rôle d'un acteur, c'est de rendre possible ce qui se paraît impossible. Voilà le rôle d'un homme politique. C'est de changer les choses là où on pense que c'est difficile. S'il n'y avait pas de difficultés, il n'y aurait pas d'homme politique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est les hommes politiques, notre responsabilité. La Côte d'Ivoire est divisée. Les enfants de ce pays ne se parlent plus. Ils se combattent. Notre rôle, c'est de réconcilier les uns et les autres, c'est de positionner le pays sur une trajectoire de paix, de stabilité et de progrès pour tous.
Alors, Pascal Afinguessa, par rapport à cet appel, vous dites que Gbagbo vous a diabolisé, mais eux aussi, ils ont peut-être quelque chose à vous reprocher.
Mais bien sûr, ils peuvent me reprocher des choses. Ils peuvent me reprocher, par exemple, le fait de n'avoir pas cédé le parti quand ils mettaient la pression. Mais j'assume mes choix, parce que à ce moment, je ne voyais pas quel était l'intérêt de donner le FPI à quelqu'un qui est en prison à la CPI. Et on ne sait pas quelle année il va sortir. Et en plus, je n'étais pas le président du parti au moment où on l'arrêtait. C'était moi. J'étais président du parti depuis 10 ans. À cause de ça, j'ai fait la prison. Parce que si je n'étais pas président du FPI, je ne vois pas pourquoi on m'aurait arrêté en 2011. On m'a arrêté en 2011 parce que j'étais président du FPI et parce que je n'ai pas renié Gbagbo pour aller me jeter dans les bras de Ouattara.
Alors, est-ce à dire que vous l'avez renié aujourd'hui?
Pas du tout. Je ne l'ai jamais renié. Même quand nous nous sommes retrouvés en 2020, je lui ai dit, bon, si c'est à cause de la présidente du FPI qu'il y a tout ça, moi je suis prêt à te céder la présidence, je serai ton premier vice-président. Et que même l'élection présidentielle qui arrive en octobre 2020, je suis prêt à ce que tu sois notre candidat, alors qu'il était encore à Bruxelles. Est-ce que tu sois notre candidat, moi je serai ton colistier. Mais si d'ici octobre 2020, il se trouve que l'un d'entre nous n'est pas en mesure d'être candidat, permet que celui qui est en mesure soit notre candidat et qu'on trouve un autre colistier. Donc moi, je ne cache jamais mes intentions, mais j'assume aussi les choix que je fais.
D'où le surnom affectif qu'on vous a donné, le lion du Moronou.
Bon, enfin, je ne sais pas si c'est ce qui justifie.
Alors,
ça.
Quand on vous appelle le lion du Moronou, qu'est-ce que cela vous fait?
Oh, mais bon, une certaine fierté, parce que le lion, ce n'est pas n'importe quel animal de la brousse, hein, c'est le roi de la jungle.
Mais on me dira que malgré le fait qu'il soit le lion, parce que la Afinguessa est tombée.
Oui, bien sûr, mais le lion a été blessé, mais n'est pas encore mort.
D'accord. Alors, on va parler maintenant du processus électoral, et avec en point de mire l'élection présidentielle de 2025 en octobre prochain, bien entendu. Alors, déjà, vous, est-ce que vous avez des craintes, des appréhensions ou de l'assurance par rapport à cet objectif de 2025?
J'ai des appréhensions parce que le cadre juridique institutionnel des élections ne donne pas totalement satisfaction.
Faites allusion à quoi?
Je fais allusion au code électoral, à la commission électorale indépendante, surtout. La commission électorale indépendante actuelle a le grave défaut que les commissions locales, qui sont au nombre de plus de 160, sont dirigées à plus de 90% par les responsables politique du RHDP.
Mais on va vous dire, mais c'est par élection que ces personnes sont arrivées là et non par nomination. Au cours des élections, c'est eux qui l'ont emporté.
Oui. Mais pourquoi ils ont gagné? Ils ont gagné parce que le collège électoral qui vote est dominé par les gens du RHDP.
Alors donc, vous voulez dire quoi?
Que la loi qui organise n'est pas bonne. Mais parce que cette loi favorise un parti qui, au bout de l'élection, se retrouve à diriger pratiquement toutes les commissions locales.
Mais cette loi, qui l'a votée?
Mais ceux qui sont au pouvoir actuellement.
Eux là, c'est qui?
C'est-à-dire le RHDP, qui est au pouvoir actuellement. Mais ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on vote des lois pour son profit personnel. Parce que quand vous le faites, qu'est-ce que vous laissez comme possibilité aux autres?
C'est une accusation grave. Vous dites qu'ils ont voté une loi pour leur profit. Or, la loi, je crois qu'elle est impersonnelle et générale, non?
Oui, bien sûr. Mais si ceux qui votent, votent à leur profit, il faut le dire. Parce que quand on élit une équipe, c'est pour voter des lois qui puissent consolider la démocratie, qui puissent consolider l'intérêt général, qui puissent créer un équilibre. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas demander à ceux qui sont victimes de vos lois injustes de subir sans broncher.
Non, on revient aux commissions locales dont vous parlez. Vous dites qu'ils sont majoritaires de façon écrasante là-bas.
De façon écrasante, oui.
Et donc, quel est le problème que ça pose?
C'est qu'ils sont capables de truquer les résultats qui vont arriver à leur niveau. C'est eux qui doivent rédiger les PV, qui doivent les transmettre à Abidjan. Et moi-même, j'ai été victime de ça en 2018. Ah. Sans la vigilance, ils auraient transmis un faux PV.
Mais là, on va vous rétorquer ce proverbe juridique ou l'adage juridique qui dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Alors, si vous savez qu'ils sont majoritairement de façon écrasante, pourquoi avez-vous conclu un partenariat avec eux?
Mais c'est pour changer cela. Quand j'ai dit que le partenariat avait pour objectif réconciliation nationale, cohésion sociale et démocratie, c'est-à-dire que dans le cadre du partenariat, on s'asseye pour regarder les règles de la commission électorale indépendante du code électoral. On change ce qu'il y a à changer.
Mais est-ce qu'entre partenaires, c'est possible de faire ces changements? C'est opposition contre pouvoir qu'il y a changement. Mais entre partenaires, on s'entend pour aller de l'avant.
Non. Quand on dit qu'il y a un partenariat, ça dit qu'il y a deux intérêts qui sont face à face et que les gens acceptent de travailler ensemble à résoudre un problème. Et le problème, c'est la démocratie. S'il n'y avait pas de problème de démocratie, il n'y aurait pas eu de partenariat pour la démocratie. S'il n'y avait pas eu de problème de réconciliation, il n'y aurait pas eu de partenariat pour la réconciliation. On a signé le partenariat pour faire avancer la démocratie. Maintenant, chemin faisant, ils ne veulent plus bouger.
On revient toujours au cadre institutionnel dont vous parlez.
Ouais.
Allez-y, dans votre développement. Vous avez dit qu'au niveau des CEI, la commission locale, ils sont majoritaires.
C'est d'abord le premier élément. Bon, il y a d'autres éléments liés à la commission centrale, où il y a aussi des suspicions, où il y a par exemple des partis qui n'existent pratiquement plus sur le terrain, mais qui sont représentés dans la commission électorale centrale, et le parti au pouvoir en profite pour désigner certains de ses militants à la place de ses partis. Et c'est la même chose dans les commissions locales. Par exemple, un parti comme le GPP, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce parti, LMP, c'est un parti qui n'est plus à l'affiche, et ils existent dans ces structures. Et très souvent, quand il s'agit de faire des élections, surtout au niveau local, ce sont des militants du RHDP qui viennent se positionner à la place de ces partis et qui font basculer le vote au profit du RHDP.
Alors,
et donc, c'est tout ça qu'il faut changer.
Donc, à vous écouter, vous faites chorus avec le reste de l'opposition.
Évidemment.
Qui s'est retrouvé au siège du PDCI.
Évidemment.
Pour faire une déclaration appelant à une réforme en profondeur de la CEI.
Bien
Mais
sûr.
Vous n'étiez pas là. Pourquoi?
Si, nous étions là. Nous avons participé à toutes les négociations. Nous n'avons pas signé la déclaration parce qu'elle a été faite au nom d'un groupement. Et nous avons proposé que ce soit fait au nom des partis politiques de l'opposition et de la société civile parce qu'à ce moment-là, ce groupement n'existait pas encore. Et donc, on ne peut pas faire porter cette déclaration par un groupement qui n'existe pas encore, dont on ne connaît ni l'organisation ni les objets. Et c'est parce qu'il y a eu donc ce petit malentendu que nous n'avons pas signé, mais nous adhérons pleinement.
Mais votre absence à cette réunion a donné du grain à moudre à vos détracteurs.
Non, on n'était pas ensemble, on était présents, même le jour où on faisait la déclaration.
Vous
on soutient totalement cette déclaration.
De l'opposition?
Oui.
Mais est-ce que l'opposition pourra proposer un seul candidat?
Ça, comme je ne suis pas l'ensemble de l'opposition, je ne peux pas vous répondre.
Alors, Pascal Afingessan, qu'est-ce que vous voulez pour que les élections soient vraiment apaisées, transparentes en Côte d'Ivoire?
Il faut une CEI véritablement indépendante, oui, en laquelle tous les acteurs ont confiance. Parce que dans le cas des élections, c'est une question de confiance. Quand les acteurs n'ont pas confiance en l'arbitre, c'est difficile que le jeu se passe sans incident.
Mais on va vous rétorquer que c'est comme ça la politique, il faut qu'il y ait du bavardage, il faut qu'il y ait des ragots autour de l'organe qui organise les élections. Non,
on ne voit pas ça partout. On ne voit pas ces ragots-là dans tous les pays. Pourquoi dans certains pays, ça se passe tranquillement? C'est parce que là-bas, les acteurs politiques ont confiance dans les institutions chargées des élections. Là où il y a des violences qui se traduisent souvent même par des morts, c'est l'absence de confiance. Et c'est la volonté de certains partis de vouloir manipuler les règles pour avoir un avantage sur les autres. C'est ça que les gens refusent et puis ça se traduit par des bagarres.
Mais toujours, il y a des gens qui disent, mais le président actuel de la CEI a été élu alors que tous les partis sont représentés à la CEI. Donc aujourd'hui, quand vous faites machine arrière pour venir dénoncer que non, on ne veut plus du président, on trouve c'est un peu bizarre.
Oui, ils peuvent trouver bizarre, mais est-ce que si on change, c'est pas mieux pour qu'il n'y ait plus de bruit? Est-ce que si on change, c'est pas mieux?
Mais qu'est-ce qui prouve que celui qui viendra aussi?
Mais changeons d'abord et puis on va voir la suite. Parce que tant que les gens auront des doutes, il faut changer.
Donc vous voulez que le président de la CEI vienne de l'opposition?
Pas forcément. Qu'il soit quelqu'un en qui tout le monde ait confiance. S'il vient de l'opposition, ceux qui sont au pouvoir n'auront pas confiance en lui. On a vu Honoré Djié ici. Il a été un président qui a été transparent. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont capables d'être de bons arbitres électoraux. C'est-à-dire d'arbitrer la compétition électorale sans parti pris. Et c'est ça qu'on souhaite. Ceux qui résistent là, c'est ceux qui veulent tricher.
Non, pas forcément. C'est parce que c'est les règles qui ont voulu que ces personnes soient à ces postes par élection.
Oui, mais si on vous dit que nous n'avons pas confiance, on veut faire un match, vous prenez un arbitre, une des équipes dit, cet arbitre-là, on le connaît pour ceci, cela. Il était même avant l'entraîneur de l'équipe adverse. Donc pour ça, nous n'avons pas confiance. On n'a qu'à le remplacer. Et puis vous insistez pour qu'il reste.
Mais ce que vous dites, c'est grave. Mais en quoi est-ce que le président de la CEI serait inféodé au RHDP?
Il était d'abord au Conseil constitutionnel. On sait qu'il est proche du RHDP. Ça, c'est de notoriété publique.
Ça, c'est vous qui le dites.
Mais on le sait, parce qu'on se connaît tous ici. On sait qui est proche de qui. Et si les gens le contestent particulièrement, c'est surtout pour ça. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre de risques.
À l'époque, il y a André qui était président du Conseil. Il était proche du président Gbagbo.
Oui, et ils n'étaient pas d'accord pour qu'il soit là. Pourquoi eux, maintenant, ils veulent que quelqu'un qui est proche de Ouattara soit à la CEI? Ensuite, on a vu le cas de Youssouf Bakayoko, père à son âme, en 2011, au moment de la proclamation des résultats.
Donc, en définitive, les acteurs politiques ivoiriens, qu'est-ce qu'ils veulent?
Ils veulent un cadre juridique institutionnel transparent, équilibré, indépendant. C'est tout. Et ça, c'est possible s'il y a la bonne volonté. S'il n'y a pas la volonté de tricher, on peut trouver des gens qui organisent les élections et en qui tout le monde a confiance.
Vous le pensez?
Oui, s'il n'y en a pas, c'est que c'est grave. Si dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas trouver des gens neutres, impartiaux, capables d'appliquer les règles sans discrimination, c'est que ce pays est perdu. Ce serait la guerre civile en permanence. Parce que si vous faites ça et que les autres ne sont pas contents et qu'ils sentent qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais ce qu'on a vu, désobéissance civile, rébellion armée, etc., etc. Oh, il faut éviter ça. La seule façon de l'éviter, c'est de se mettre autour de la table, de regarder les règles. Est-ce que si on fait comme ça, c'est bon? Celui-là dit oui, celui-là dit non. On va faire comme ça, on négocie, on trouve un bon terrain d'entente et puis on va aux élections.
Alors, on va aborder le sujet du 5e congrès ordinaire du FPI. Ce congrès-là va se tenir où et quand?
Les 8 et 9 novembre 2024 à la Fondation Félix Fouet-Boyen pour la paix de Yamoussoukro.
Et qu'est-ce qu'il vise, ce congrès?
Il y a plusieurs questions à l'ordre du jour. Il y a d'abord le renouvellement des instances des jeunes et des femmes. Donc, il y a un nouveau secrétaire national de la jeunesse, une nouvelle secrétaire nationale des femmes. L'autre élément, c'est aussi faire le bilan, puisque c'est un congrès ordinaire. Donc, nous allons faire le bilan du mandat 2018-2024. Ensuite, procéder à l'élection du nouveau président du FPI. Ensuite, comme nous sommes dans la dynamique des élections, nous voulons en profiter pour désigner notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et puis, il y a l'élection aussi de la liste du comité de contrôle.
Alors, par rapport à la présidente du FPI, dont le renouvellement devrait se faire à ce congrès, il semble qu'il y a des bisbilles, il y a des cadres qui vous contestent.
Oui.
Et pourquoi?
Oh, il y en a qui trouvent que j'ai fait 23 ans, que c'est suffisant, que eux aussi, ils veulent prendre la place pour faire pour eux.
Et donc?
Bon, mais sur le principe, il n'y a pas de problème. Voilà, parce qu'on interdit à personne d'être candidat. Mais le problème qu'ils ont, c'est que pour eux, il ne faut pas que je sois candidat.
Mais voilà. Pourquoi ils ne veulent pas que vous soyez candidat?
Il faudrait leur poser la question. Ils ne veulent pas que je sois candidat pour qu'ils aient une chance de gagner. Or, à ce niveau, je leur ai dit, mais moi-même, le poste, là, ça ne m'intéresse plus. Parce que je pense que j'ai dépassé ce stade. Mais comme je suis candidat à l'élection présidentielle, il serait un peu difficile que je sois candidat et que quelqu'un d'autre soit président du parti, avec le risque que nous deux, nous ne nous entendions pas sur la manière de conduire la campagne. Ce qui peut affaiblir ma candidature. Donc, vos ambitions là, laissez ça de côté pour le moment. On va aller aux élections et je vous garantis qu'après les élections, je vais me retirer pour vous donner l'opportunité de continuer.
Alors, mais vous dites que vous êtes contesté parce qu'il y en a qui disent que vous êtes en tout cas proche du parti au pouvoir et non de l'opposition.
Non, mais ça, c'est la déclaration que le camarade Dabo Godé a faite avant le comité central qui a prononcé la rupture. Et lui, son problème, c'est la peur que le FPI se rapproche du PPAC.
Mais pourquoi ?
Ah, ça, c'est lui qui peut le dire. Hein. C'est vraiment pour des raisons qui lui sont personnelles, ses sentiments personnels vis-à-vis de Gbagbo et du PPACI. Mais on ne peut pas faire la politique du FPI avec les sentiments personnels d'un cadre.
Mais là, j'ai lu de la presse, et il soutient que vous n'êtes pas de l'opposition pour vous rapprocher du PPACI qui est de l'opposition, mais vous êtes, en tout cas, avec la mouvance présidentielle.
Oui, ça, c'était avant la rupture, le sentiment qu'il avait. Donc, nous n'avons jamais quitté cette opposition, et même le jour où nous avons signé le partenariat, la déclaration était clair que chacun est dans son rôle et que d'ailleurs ce partenariat nous donne un moyen supplémentaire d'interpeller le parti au pouvoir. Parce que nous ne sommes pas au gouvernement avec le parti au pouvoir. Nous ne sommes pas des institutions avec le parti au
Mais
pouvoir.
Mais si on avait fait appel au président du FPI ou à un autre cas du FPI pour être ministre?
Oui, mais vous dites si. Pour le moment, ce n'est pas le si là qui gouverne le rapport que nous avons actuellement. Et c'est par rapport à ça qu'il faut évaluer la position du FPI. Nous ne sommes pas dans les institutions, donc nous jouons notre rôle. Parce qu'en dehors de la réconciliation nationale, si le gouvernement, par exemple, fait des déguerpissements sauvages, vous voulez que le FPI se taise tout simplement parce qu'il a un partenariat sur la réconciliation avec le RHDP? Non, on ne se tait pas. S'il y a des détournements de deniers publics, on ne se tairait pas.
Mais venant d'un partenaire, ce serait mal vu. Or, quand ça vient d'un opposant, cela a encore plus de poids.
Ça peut peut-être avoir plus de poids, mais je pense même que c'est le contraire. Une critique qui vient d'un partenaire a plus de poids parce que lui, il avait de bonnes raisons de ne pas parler. Or, s'il parle, ça veut dire que le problème que le partenaire en question pose est un problème sérieux.
Mais on dira aussi que Pascal Afinguessan, aujourd'hui, il crie au loup parce qu'il n'a pas pu manger avec le partenariat.
Mais il n'y avait pas de nourriture à l'heure du jour du partenariat. S'il y avait de la nourriture et puis on ne m'a pas donné, je peux comprendre. Mais on dit réconciliation, cohésion, démocratie. Il n'y a pas de nourriture dedans. Et même à la signature, j'ai même dit publiquement pour que les gens me prennent à témoin que ce partenariat, ce n'est pas un partage de gâteaux. Que la Côte d'Ivoire n'est pas une friandise. Vous êtes journaliste, vous avez suivi. Donc, vous voyez que, dès l'origine, j'ai bien dit que je n'allais pas dans ce partenariat pour aller manger.
Alors, pour finir avec le 5e congrès, qui doit y participer?
Nos délégués de secrétaires généraux de section. Nous en avons autour de entre 6 000 et 8 000. Ce sont eux qui viennent. Plus les secrétaires généraux de fédération. Dans chaque sous-préfecture est une fédération. Et dans chaque sous-préfecture, dans chaque fédération, il y a des sections. Donc, les sections, plus les responsables fédéraux, plus les membres de la direction.
Alors, dernier virage de notre émission de ce jour, de ce programme, c'est l'avenir du FPI et du PPACI. Alors, la question est simple, hein, parce qu'elle a fini de descendre. Est-ce possible, imaginable, qu'un jour, ces deux partis fusionnent ensemble pour devenir un seul?
Oh, moi, je ne suis pas dans la divination. Je suis un homme politique. Peut-être que si vous consultez un marabout, il pourra vous répondre. Mais moi, je ne peux pas vous dire ce que l'avenir nous répète. C'est Dieu seul qui sait ce qui va se passer demain.
Mais ici, par exemple, Laurent Gbagbo disait, mais ah, fille, mon bon petit, c'est vrai, on a eu des bisbilles. Mais bon, vous venez au PPACI, qu'est-ce que vous allez répondre?
Une telle question relève du comité central du FPI. Mais moi-même, je peux dire que pour le moment-là, je ne vois pas cette hypothèse.
Et pourquoi?
Parce que les deux partis se sont structurés.
Mais les deux partis sont de la même idéologie.
Oui, bien sûr, ils sont de la même idéologie, mais ce n'est pas le seul parti. Pendant longtemps, on avait des partis comme PIT, USD qui cohabitaient avec le FPI.
Mais là, c'était différent. Or, vous et Laurent Gbagbo, vous avez été des alter ego.
Oui, bien sûr. Mais on peut être des alter ego, ne pas dormir sur le même lit, avoir même des chambres différentes, même en étant dans la même maison, sinon avoir des maisons différentes dans le même quartier. Il y a donc toutes ces hypothèses. Et puis se fréquenter, travailler ensemble, se soutenir dans les circonstances difficiles.
Pascal Afinguessan, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie pour la paix.
Francis Cassie. Venez de suivre la grande interview. Réalisation Antoine Coissy.